Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi.
Sois loué Jésus. Merci pour ta présence. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître que sans toi, nous ne serions pas ici ce soir. Ce n'était pas pour ta grâce et ta miséricorde. Et ta bonté qui durera toujours, qui durera jamais, nous ne serions peut-être pas là ce soir. Alors nous voulons te montrer, Seigneur, toute notre reconnaissance, toute notre gratitude, parce que un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Si tu le crois, dis Amen.
Amen.
Quelle joie d'être ici ce soir. Est-ce une joie pour vous d'être là ce soir? Amen. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Qui le croit? Amen. Ah, quelle joie. Qui sait de quoi on va parler ce soir? Pasteur Charles. Amen. J'espère que ce message va vous bénir, va ouvrir les yeux vers ce que Dieu veut faire. Nous arrivons vers la fin de l'année et nous avons l'espoir de vivre une année 2024, si Dieu nous prête vie, avec joie, avec paix, remplie de miracles, de guérisons, de la manifestation de la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, je vais vous partager, par la grâce de Dieu, un sujet qu'on ne va pas, bien sûr, prendre en profondeur, mais qui est très, très profond. Qui est très profond parce que sans cela, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Pour cela, on va lire dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Ce passage va nous permettre d'illustrer à travers la vie d'une femme qui a obtenu un miracle par la foi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais ils étaient allés plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même moment, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc on voit ici une femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Cette femme était désespérée et elle avait tout essayé. Il nous est dit que Jésus, donc pour dans le contexte, Jésus allait à la maison de Jaïrus et donc passait par là. Ce qui nous donne une indication, c'est que Jésus n'avait pas prévu de s'arrêter là. Elle n'était pas sur le point GPS de Jésus ce jour-là. On voit donc Jésus qui s'en va pour répondre à l'appel d'un homme appelé Jairus, comme je viens de dire, et en chemin, donc, il va être interrompu. Cette femme avait tout essayé. Elle avait vu tous les médecins sans que personne ne trouve de solution à son problème. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus de solution. Mais ayant entendu parler de ce que Jésus avait fait, lorsqu'on regarde dans le contexte, ce que signifie perte de sang à cette époque, ça voulait dire quoi? Déjà, ça voulait dire une souffrance sans cesse. Une perte de sang sans interruption pendant 12 ans. Les médecins n'avaient pas de solution. Que fait un médecin lorsqu'il n'a pas de solution? Il va essayer de trouver des solutions, il va expérimenter. Et la Bible nous dit que son état est allé de pire en pire. Ça ne s'est pas amélioré malgré les expérimentations. Ça l'a fait souffrir. Mais en plus de cela, la perte de sang apportait une douleur qui était tellement forte que le mot « souffrance », c'est le même mot utilisé en grec qui veut dire « torture ». Ça veut dire que son corps était dans un état pitoyable, tellement elle ne pouvait plus tenir debout, tenir une journée sans souffrance. Lorsqu'on parle de torture, la souffrance telle qu'elle était dite ici, ça veut dire que, imaginez du temps des Romains, lorsqu'on parlait de torture, on prenait un esclave et on le mettait des coups de lacet, de fouet, et lorsque son corps était déchiré, on arrêtait, juste avant qu'il meure. Et on laissait quelques jours pour que ça commence à cicatriser. Et on remettait des coups. C'était ça la torture. Une douleur sans cesse, non-stop, pendant 12 ans. Elle n'avait plus d'espoir. Il lui restait la mort. Tous les médecins qu'elle avait pu payer n'avaient pas apporté de solution. Elle était isolée de tout le monde. Parce que, rappelons-nous du contexte hébraïque, lorsqu'une femme avait une perte de sang, elle était considérée comme impure. Donc, elle ne pouvait pas côtoyer les autres personnes. Ça veut dire que pendant 12 ans, sa condition qui la rendait impure ne lui permettait pas d'avoir des amis dans sa maison. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de vie sociale. Pas de relation intime avec son mari, si elle en avait. La Bible ne nous dit pas si elle avait un mari. Si elle avait des enfants, pas la possibilité de faire un câlin à ses enfants. Pas la possibilité donc de prendre soin de sa famille. Imaginez 12 ans de confinement. 12 ans de confinement. Nous, au bout de 3 mois, on était « Seigneur, s'il te plaît, sors-nous de là. On a envie d'aller à la plage. On a envie d'aller manger au restaurant. » 12 ans où tout s'arrête pour elle. 12 ans de confinement. Elle était désespérée. Deuxième confinement, nous? Non, pas possible, ça ne recommence pas. Ça n'est pas vrai, ça. 12 ans, pas de solution. Elle a tout essayé. Dans ces 12 ans, elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Perte financière, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle était tellement dépouillée de tout ce qu'elle possédait parce qu'elle payait les factures. Elle n'avait pas la CMU. Elle n'avait pas la sécurité sociale. Donc elle devait tout payer. Vendre ses meubles pour payer les médecins. Émotionnellement, elle était au fond du trou. Elle n'avait plus d'espoir. Sortir dans la foule voulait dire mettre sa vie à mort. C'est-à-dire précipiter sa mort, parce que si on trouvait une personne impure au milieu de la foule, on pouvait la lapider. On lui jette des cailloux jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, elle était désespérée. Mais voyez-vous, la Bible nous dit au verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » ayant entendu parler de Jésus. Comment a-t-elle fait pour entendre parler de Jésus alors qu'elle était confinée? Imaginez-vous, elle est dans sa maison, elle entend parler de Jésus, elle entend parler des miracles que Jésus faisait, elle entend peut-être des gens passer en criant, en disant « Maintenant je vois, maintenant je vois. Maintenant c'est bon, je peux bouger ma main ne bougeait plus. Ma main qui était là, bouge maintenant. » Après le Covid, je ne sens plus rien. Maintenant, je sens le carie. Je sens. Elle entendait ces bruits. Peut-être un médecin qui lui a dit, nous ne pouvons rien faire, mais on a entendu parler d'un homme qui guérit. Peut-être. On ne sait pas. Mais elle a entendu parler de Jésus et de ce que faisait Jésus. On a ce verset dans Romains 10, 17 qui nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de la parole qu'on entend fait naître en nous une foi qui va grandir. Nous avons tous reçu une mesure de foi, la mesure de foi. Mais cette foi, elle est en nous comme une petite graine de moutarde. Et lorsque la parole vient et qu'elle connecte à cette graine que Dieu a mise en toute personne, la foi naît. C'est la parole qui vient engendrer la foi, la faire sortir, grandir. Et cette femme, on ne sait pas pendant combien de temps, mais elle a entendu parler. Elle a entendu parler et encore et encore. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole. Ici, le verbe « entendre » en grec veut dire ce que l'on entend et que l'on entend et que l'on entend encore et encore. Ça veut dire que si tu veux vivre par la foi, tu ne peux pas épargner la parole et la mettre de côté. La parole de Dieu est celle qui fait grandir la foi. Amen. Sans la parole, la foi ne peut pas grandir. Elle a entendu parler de ce que Jésus faisait, un jour après l'autre, un jour après l'autre. Et elle entend encore et encore. Et quelque chose commence à naître en elle. Elle s'attendait à mourir. Elle ne savait pas combien de temps elle pouvait tenir encore. Mais là, il y a comme un changement en elle, changement de circonstances non visibles. Et tiens, et si peut-être moi aussi il pouvait me guérir? Et si, moi aussi, cette main pouvait me toucher et ma vie change? La foi va commencer à naître en elle et elle va commencer à imaginer. Tiens, si cette personne a été guérie, peut-être que moi aussi. Et elle va continuer à entendre. Entendre la parole. Et le danger est de se dire, non mais c'est pas ce que la parole veut dire. Jésus va dire, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Oui, mais peut-être que ça c'est seulement pour ceux qui prêchent. Est-ce que c'est pour moi aussi? C'est pour tous ceux qui croient dans la parole. C'est-à-dire que lorsque ce témoignage de ce que Jésus est en train de faire est arrivée dans ses oreilles, elle a commencé à changer le tableau dans ses pensées. Elle a commencé à imaginer, et si jamais c'était possible? Et on va voir que, au verset 28, elle va dire, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Lorsqu'on entend la parole, une pensée va naître qui vient contredire la narrative des circonstances de notre quotidien. Lorsqu'on entend la parole, je répète, une pensée va naître qui vient contredire la narrative que les circonstances et la vie quotidienne t'ont aidé à développer. Lorsqu'on entend la parole, elle vient contredire ce que les circonstances nous disent. Lorsqu'on entend la parole, elle vient contredire ce que nos yeux voient, nos yeux naturels. Et nos yeux spirituels commencent à voir autre chose. Et là, il y a un conflit maintenant. Est-ce qu'on va choisir ce qu'on voit de nos yeux ou ce que l'Esprit de Dieu commence à nous montrer? Et la Bible nous dit, au verset 28, « car elle disait, dire fait partie du plan de foi. Je ne vous ai pas donné le titre. J'aurais presque envie de vous laisser mettre le titre que vous voulez. Moi, le titre que j'ai mis, c'est la foi qui fait bouger les montagnes. La foi qui déplace des montagnes. Parce que cette femme, sa maladie était une montagne pour elle. Sa maladie l'empêchait de voir ce qui se passait de l'autre côté. Il y avait une montagne entre elle et l'extérieur. Et au verset 28, elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle commençait à se dire, « Si seulement j'avais l'opportunité de traverser cette foule ou de survoler ces gens pour atteindre Jésus. Si seulement je pouvais aller à l'extérieur et je touche à peine son vêtement. Si seulement je pouvais. » Et elle a commencé à le répéter et le répéter. Si seulement. Parce que voyez-vous, l'image qui avait été dans sa tête pendant des années venait d'être contredite par la parole. Et là, elle commence à imaginer autre chose. Elle commence à imaginer qu'il y a une possibilité, qu'il y a une ouverture, qu'il y a un moyen de sortir de cette prison. Si seulement je pouvais toucher le pan du vêtement de Jésus. Si seulement je pouvais toucher l'épaule de Jésus. Si seulement je pouvais toucher ses sandales. Que veux-tu toucher sur la vie de Jésus? Que veux-tu extraire de lui? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à répéter et à se dire et répéter encore et encore. Elle va commencer à proclamer que si elle touche le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Lorsque la foi commence à monter, lorsque la foi en nous commence à monter, ça nous demande de parler, ça nous demande de déclarer, ça nous demande de déclarer ce qu'on veut vivre, pas ce que les circonstances nous disent. Quand est-ce la dernière fois que tu as parlé ce que tu voulais vivre et pas ce que les circonstances te montraient? Quand est-ce la dernière fois que tu es sorti de lieu secret en déclarant ce que Dieu a dit sur ta vie? Quand est-ce la dernière fois que Dieu t'a dit « Je prends soin de toi » et tu sors, tu vas faire les courses, tu arrives à Carrefour, tu te sens encore augmenté, inflation vraiment, l'huile est encore passée à 4 euros, comment je vais faire le carry? 4 euros l'huile, c'est pas possible. Et Dieu a dit qu'il prend soin de toi. Quand est-ce la dernière fois que tu as vu un médecin et puis tu as, à tout le monde qui arrive, tu dis ce que le médecin a dit? Pas une fois, tu as dit ce que Dieu t'a dit. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Quel est le langage que tu choisis de parler? Quelle est la langue que tu choisis de sortir de ta bouche? Ne sais-tu pas que la bouche parle de ce qu'il y a dans le cœur? La parole va venir changer nos pensées afin qu'on déclare ce que dit la parole. Josué 1:8, médite cette parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Et alors tout ce que tu entreprendras aura du bon succès. 1 Corinthiens. Tout ce que tu entreprendras aura du bon succès. Lorsque tes yeux voient la parole et ta bouche déclare ce que les yeux ont vu de la parole. La Bible nous dit dans Josué 1:8, tout ce que tu entreprendras aura du bon succès. Parce que dans le bon succès, il y a toute la parole.
Il y a aussi dans le bon succès la persévérance, la patience. C'est-à-dire que lorsque Dieu te donne un projet, te donne quelque chose, et ça va demander la patience, mais ça va te demander de garder dans ta bouche ce qu'il a dit de ce projet. Cette dame a gardé dans sa bouche, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus. La première action, on entend la parole. On médite la parole. On sait ce que la parole dit sur notre situation. Chaque parole est une semence qu'on va mettre dans nos pensées, dans nos cœurs, et qu'on va déclarer. Lorsqu'on la déclare, c'est comme si on prend cette semence, on la met dans une bonne terre. Et elle va dire, et répéter encore. Lorsqu'on parle, vous savez ce qui se passe ? J'ai vu un documentaire où on parlait du cerveau. Et on dit que le cerveau ne sait pas faire toujours la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc si tu te lèves, tu dis « je suis en galère », le cerveau dit « il est en galère ». Il envoie les signaux pour mettre les automatismes de protection. C'est pour ça que la Bible nous dit quoi ? Que le pauvre dise « je suis ». Qu'est-ce qui se passe quand on dit ça ? Le cerveau entend qu'on est riche, donc il ouvre d'autres mécanismes pour qu'on voit les choses différemment. Cette machine a été bien créée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. La foi, on ne peut pas vivre sans la foi. Cette dame était morte sans la foi. Mais quand elle a entendu parler de ce que Jésus faisait, sa vie a changé. À cet instant, dans le monde spirituel, les choses ont commencé à changer. Et lorsqu'on va dire, on va répéter, ça ne veut pas dire répéter pour se convaincre. C'est des déclarations qu'on fait sur nos vies. Il y a tellement de témoignages que je pourrais donner. Comment juste obéir à une ordonnance où Dieu te dit, à partir de ce jour, tu ne diras plus telle chose pendant 8 mois. Parce que si tu dis telle chose, tu seras à côté de ce que je veux pour toi. Notre bouche, c'est une arme. Cette bouche est puissante. Cette femme avait compris. Dans le désespoir, elle avait compris que Jésus pouvait faire quelque chose. Et elle parle à son âme, elle se parle à elle-même, elle se convainc. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que si elle sort, on risque de la lapider. Donc il faut qu'elle arrive à Jésus au bon moment et qu'elle soit guérie avant qu'on la trouve. Voilà pourquoi elle a besoin de courage. Parce qu'il y avait sa vie en jeu. Même si elle savait que sa maladie l'emmenait à la mort, elle n'avait pas envie de mourir. Qui veut mourir ? Ah, tout le monde veut vivre. Lorsqu'on va déclarer, lorsqu'on va parler la parole, lorsqu'on va se rendre compte que nos paroles sont des secrets dans le monde spirituel, que nous ne devons pas oublier que nous sommes des rois sur la terre et que notre autorité est dans notre bouche. C'est dans nos déclarations. La foi qui déplace des montagnes, elle vient parce que nous avons entendu la parole, que la parole a fait naître en nous une déclaration prophétique de notre avenir, pour notre avenir. Et que lorsqu'on se lève le matin, en journée, tout le temps, c'est ce que nous allons déclarer. Dans notre lieu de travail, on a des défis. Qu'est-ce que tu proclames dans ton lieu de travail ? Moi, je sais ce que je proclame. Mais tu proclames quoi ? On fait des exploits. On fait des exploits par la foi. Que ton langage soit celui que Dieu donne. Que ton langage soit aligné à ce que Dieu veut faire. Souvent, quand on a des projets qu'on peut réaliser,
n'est pas Dieu. Parce que Dieu veut la foi. Il veut qu'on marche par la foi. Comment il va nous donner des petits projets tout le temps? Petit projet, petit Dieu. Grand projet, grand Dieu. Si Dieu nous donne des projets, ça demande la foi. Pardon, quand Dieu nous donne des projets, ça demande la foi. Quand Dieu nous donne des projets, ça demande la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et il veut qu'on lui plaise. Cette femme a été convaincue. Arrivé un moment, la lumière s'est allumée. Elle a dit, maintenant, c'est le moment. C'est le moment de faire le pas de foi et d'aller vers Jésus. Elle est sortie. Elle a traversé la honte, l'humiliation pour aller à la rencontre de son Sauveur. Certains d'entre vous ici, vous avez des problèmes, vous ne savez pas comment sortir. Vous avez même honte d'en parler. Vous avez honte de vos actes, vous avez honte de ce que vous avez fait. Allez juste aux pieds de Jésus. Touchez Jésus. Il restaure, il guérit. Ne laissez pas le diable vous mentir. Sans lui, c'est dur d'avoir du succès. Et comme quelqu'un a dit lorsqu'on priait, il est normal d'échouer sans Jésus. L'échec doit être normal sans Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Pourquoi par derrière? Parce qu'elle avait honte, parce qu'elle ne voulait pas être vue, parce qu'elle savait que sa vie était en danger. Elle a entendu parler de Jésus. Elle sait que Jésus passera par la ville. La nouvelle des miracles qu'il a fait sont connues dans toutes les contrées. Partout où Jésus passe, il y a des foules qui le suivent parce qu'ils veulent voir les miracles. Ils veulent que leur vie change. Elle apprend qu'il passe par là. Elle a entendu, elle a cru, elle a proclamé, elle a déclaré. Elle va chercher à mettre en pratique ce qu'elle a cru. Et elle va. Et c'est là que l'action commence. C'est là qu'on voit la foi qui est en nous. C'est lorsqu'on fait le pas de foi. Tant qu'on entend la parole, tant qu'on déclare, c'est bon. Mais c'est lorsqu'on fait le pas, on se jette à l'eau. C'est là que l'action commence. Hein, Lynn? C'est là que l'action commence. Elle sort dans la foule. Elle va vers Jésus. Et elle va, elle traverse la foule, elle touche le vêtement de Jésus, et à cet instant même, comme elle l'a déclaré, comme elle a cru, elle est guérie instantanément. 12 ans de misère, 12 ans de douleur, 12 ans de honte, 12 ans de confinement sont terminés en un instant parce qu'elle a cru. Elle a cru dans la parole. Elle a cru dans ce que le Jésus qu'elle avait entendu, elle l'a vu, elle a touché le vêtement. Et le vêtement de Jésus, qui est en contact avec Jésus lui-même, a libéré quelque chose. Ce n'est pas le vêtement qui libère quelque chose, c'est un point de contact. Certains touchaient les mouchoirs de Paul et ils étaient guéris. Vous croyez que sa vie a changé? 12 ans de souffrance, de torture, fini en un instant, parce qu'elle a rencontré le Créateur de toutes choses. Elle a mis sa foi en action. Retenez ceci. Lorsque la foi est appelée à l'exercice, l'œuvre de la délivrance se manifeste. Lorsque la foi est appelée à l'exercice, l'œuvre de la délivrance se manifeste. C'est-à-dire que lorsqu'on se met en mouvement pour accomplir ces choses qui sont emmagasinées en nous, vous savez, quand vous avez par exemple une parole pour quelqu'un et vous ne savez pas s'il faut la donner, et puis vous êtes là, mais cette parole vous brûle et vous avez envie d'aller la libérer.
exercer la foi. Allez voir la personne. Et ce n'est qu'en le faisant qu'on va découvrir qu'on s'est libéré de ce poids, de cette parole qui était en nous, que Dieu a mis en nous pour encourager. Imaginez si seulement on exerce la foi dans une nouvelle dimension. On a déjà fait des exploits, gloire à Dieu. Mais on doit aller d'exploit en exploit, de gloire en gloire. Il faut que la saison qui arrive soit meilleure que la saison passée. Ah. Il faut qu'on imagine ce que Dieu peut faire demain, qu'il n'a pas encore fait hier. Qu'est-ce qui reste en nous encore, qu'on n'a pas encore sorti? Qu'est-ce que Dieu a mis en nous encore, qui doit sortir? Ce n'est que par le moyen de la foi. Déclares-tu les projets que Dieu a mis dans ton cœur? Ou déclares-tu tout ce que les circonstances ont dit? Cette femme n'a pas attendu que Jésus soit passé en disant l'opportunité suivante quand il repassera. Non, non, elle était trop désespérée, elle n'avait pas d'option, elle n'avait plus d'option. Et alors, elle est sortie. Et comme il est dit dans Jacques, chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Nous devons pratiquer. La foi est comme un muscle qu'on exerce. Plus on l'exerce, plus il devient fort. Et nous devons faire confiance à la parole. Jésus tient sa parole. Il accomplit sa parole. N'ayons pas peur. D'ailleurs, il nous a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il est celui qui calme les tempêtes. Il est celui qui chasse les démons. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui guérit. Il est celui qui rend intelligent. Il est celui qui prospère. Il est celui qui enlève la malédiction. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Et le dernier point, la foi donne accès à ce qui est impossible. La foi donne accès à ce qui est impossible. La foi donne accès à ce qui est impossible. Jésus n'avait pas prévu de guérir cette femme. Ce n'était pas dans son programme. Jésus n'avait pas prévu de libérer une force de guérison. Imaginez Jésus dans la foule. Tout le monde veut le voir. Quelques jours avant, il a nourri un tas de monde. Tout le monde sait que si tu es à côté de Jésus, tu ne peux pas mourir de faim. En plus, c'est bon. C'est du poisson, mais c'est bon. Ce n'est pas du bœuf, mais c'est bon. Donc beaucoup sont là parce qu'ils savent que si on est à côté de ce monsieur-là, on va manger. Et puis en plus, on va voir des miracles. Des jambes qui poussent, des personnes qui ne voyaient pas qui commencent à voir, une personne handicapée qui retrouve la motricité totale, des morts ressuscités. Il y a de l'action. Et en plus, on mange bien. Tout le monde était derrière Jésus. En parenthèse, nous sommes tous venus à Jésus parce qu'on avait besoin de quelque chose au départ. Et si tu crois que tu n'avais pas besoin de quoi que ce soit, peut-être tu t'es dit non, je n'ai pas envie d'aller en enfer, j'ai envie d'aller au ciel. Donc tu as fui quelque chose. Donc c'est bon, tu es venu parce que tu avais besoin de quelque chose. On vient tous parce qu'on a besoin de quelque chose. Et la foi donne accès à ce qui est impossible. Il y a des personnes qui n'avaient pas à manger. Ils ont eu à manger. Il y a des personnes qui n'étaient jamais sorties de chez eux en suivant Jésus. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont marché des journées entières en suivant Jésus. Et alors, Jésus n'avait pas prévu, mais cette dame, la foi qu'elle avait, elle est venue perturber le programme de Jésus. C'est quand la dernière fois que tu as perturbé le programme de Jésus? Elle s'est dit, si j'y vais, j'aurai quelque chose. Jésus est dans la foule, il sent que tout ce monde-là qui vient chercher à manger, entre autres, sont en train de le presser Rabbi, donne-nous à manger, donne-nous du poisson. Hier, c'était bon, on peut avoir tel poisson. Ils sont là, ils sont autour de lui. Fais un miracle, ma fille est malade. L'autre, la Bible dit que si on prend tout ce que Jésus a fait comme miracle, tout ce qui a été fait, je ne pense pas qu'on pourrait avoir toute la surface de la terre pour étaler ce qu'il a fait. Et là, il dit dans la foule, « Qui m'a touché ?» Les disciples étaient à côté de lui, en train de faire les gardes du corps. « Allez, poussez-vous, laissez passer, laissez passer. » Et il le touchait pour le protéger, soi-disant. C'est lui qui les protégeait. Et bien sûr que tout le monde le touchait. Mais il y a touché et touché. Ce toucher-là est venu faire quelque chose d'extraordinaire. Il est venu interrompre le programme de Jésus pour extraire de Jésus ce qu'elle avait besoin. La foi vient extraire de Jésus ce que tu as besoin. La foi vient puiser en Jésus ce que tu as besoin. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Et Jésus dit quoi à cette dame ? Ta foi t'a sauvé. Ta foi, pas ma foi, ta foi t'a sauvé. Mais Seigneur, ce n'est pas toi qui sauves ? Si, c'est moi qui sauve, dit le Seigneur, mais par le moyen de la foi. Tu as entendu, tu as déclaré, tu as cru et tu as marché. Tu es allé vers, tu as commencé à faire. Elle a cru, elle a mis sa foi en action. Elle a posé l'œuvre, elle est allée marcher, elle est allée toucher le vêtement. Et elle a été guérie. Jésus dit, quelque chose est sorti de moi. Tu ne peux pas toucher Jésus avec la foi sans qu'il le sente, sans qu'il sente une force qui sort de lui. Impossible. Impossible. Il sait. Il sait. Il a senti quelque chose sortir de lui. Elle a su extraire son nécessaire et son besoin. On n'a pas besoin de plus de révélations. On a juste besoin de croire la révélation qu'on a déjà reçue. On a seulement besoin de mettre à l'exercice les révélations qu'on a reçues par la foi. Certains ont entendu, prends soin de la veuve et de l'orphelin. Oui, mais comment je commence un orphelinat ? Comment je commence ça ? Et commence une association, nourrit 5 personnes. Prends soin d'une veuve, peut-être qu'il y en a parmi nous. Peut-être qu'il y a un orphelin parmi nous. Commence avec une personne. Mais mets en place le premier pas. Quand Dieu m'a appelé pour le servir, j'allais dans ma chambre. Un, je pleurais parce que je n'avais pas envie. Parce que moi, je voulais faire les affaires. Je voulais faire les affaires. Je voulais voyager, je voulais bouger. En grandissant, je me suis rendu compte que je déteste l'avion, en fait. Ça aurait été catastrophique. J'aime pas l'avion. Et des fois, je pleurais. Je me disais, j'ai pas envie de faire ça. Je voyais mon père bouger, courir à gauche, à droite. D'ailleurs, il nous regarde. Je vous bénis, papa, maman. Il courait partout, tout le temps. Et je voyais ma maman toute seule à la maison. C'est elle qui nous a transmis la foi. Et je dis, mais Seigneur, c'est ça, te servir ? Parce qu'on voulait avoir notre papa à la maison. Mon grand-père, c'était pire. Il partait 2 mois, 3 mois en campagne d'évangélisation. Mais il faisait ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et puis, j'ai commencé à me dire, si c'est ce que Dieu veut, je ne vais pas fuir. J'en connais un qui a fini dans le ventre d'un poisson. Je préfère apprendre par obéissance que par révélation. Donc on va obéir. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à écouter des enseignements. À écouter. J'ai trouvé des hommes de Dieu que j'aimais bien. Et j'ai commencé à écouter. Et puis ça tombe bien, mon père mettait des cassettes dans la voiture. Clic,
On tourne, on sort, on remet, côté B, allez hop. Les plus jeunes ne savent pas de quoi je parle. Après, on a eu le CD, on a mis le CD. Certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Et la parole a commencé à entrer. Jour après jour. Pas un jour passé sans que j'entende quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à rêver. En moi, j'ai commencé à trouver comme une joie à servir Dieu. J'ai commencé à imaginer et j'ai commencé à oser dire, je crois que plus tard, je servirai Dieu. Mais plus tard. Et puis, j'ai quitté chez mes parents, je suis allé faire mes études et là, je ne pouvais plus fuir. Dieu commence à me donner des rêves où je me vois là en train de prêcher. Je ne pouvais plus fuir. Et je n'avais plus envie de fuir parce que ce que je voyais était glorieux. Et là, j'ai commencé à déclarer, oui Seigneur, je te servirai. Oui, je vais prêcher ta parole. Les prophéties ont commencé à arriver. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dès que quelqu'un venait à la maison, on prêchait la parole, tout le temps. Dès que quelqu'un venait manger à la maison, on prêchait la parole. On parlait sur le royaume. Et on commençait à vivre les choses. Et j'avais l'impression d'être debout ici devant vous. Et j'étais devant deux personnes. Des fois juste ma femme, mes enfants. Mais je vivais l'instant comme si j'étais là devant vous. Certains m'ont dit, t'as pas trop de stress? Non, pas vraiment. J'ai tellement vécu ça avant d'être là que c'était presque la suite logique. Mais j'ai eu l'opportunité. On m'a fait confiance. On m'a donné la possibilité. Et j'ai dit, oui, je viens. Je vais te servir, Seigneur. Qu'as-tu mis en route pour commencer ce que Dieu t'a demandé? Je demande à l'équipe de venir, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de plus de révélations. On a besoin juste de mettre en mouvement ce que Dieu a déjà dit. Dieu t'a demandé de monter une entreprise. Commence. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Tellement de moyens sécurisés pour entreprendre. Dieu t'a demandé de prêcher la parole. Commence à prêcher à ton chien, à ton chat. Eh oui. Après, il y a le miroir. Prêche à toi-même. Commence. Chanter. Oui. Viens faire l'audition si on te recale. Il ne faut pas commencer à pleurer, dire non, vraiment là-bas, ils sont trop durs. Ah, c'est injuste. Non. Peut-être que ta voix part un peu à gauche comme moi. Et puis après, quand elle est à gauche, elle part à droite. Ça se travaille. Mais commence à chanter dans ta douche. Commence à chanter avec une autre personne. Prends des cours. Mais commence quelque chose. Nous allons de gloire en gloire. Qui était là la semaine dernière? Si tu n'étais pas là, écoute le message. On a reçu une prophétie pour l'Église. Il y a la place pour tout le monde pour servir. Dieu aime chacun d'entre vous et veut se servir de chacun d'entre vous. Il y a la place. Et s'il n'y a pas de place, on va créer la place. Parce qu'on va, ça veut dire qu'on va s'élargir. Mais il y a la place. Il y a la place. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Croire que tu n'es pas assez bien. Que ce n'est pas important parce que c'est servir l'Église. Ce que je fais dans la société, c'est plus grand. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de mieux que servir Dieu. Et tu peux servir Dieu dans la société. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Commence quelque part. Écoute cette parole, elle est pour toi. Commence quelque part. Ne laisse pas les circonstances te dire que tu ne peux pas. Dieu compte sur toi. Il a mis en toi une lumière pour te conduire. C'est sa parole. Cette femme, sa vie a changé parce qu'elle a cru. Nous
Nous allons quelque part, extravagance. Nous allons quelque part. Les temps de honte et d'humiliation sont terminés. Nous allons quelque part. Hey, nous allons quelque part. Ces temps de sacrifice, ces temps d'humiliation, c'est monté comme un parfum devant le trône de Dieu. Le sacrifice porte un parfum. Et ce parfum, c'est ce que Dieu cherche. Parce que dans le monde spirituel, le parfum se répand. Et même les anges cherchent l'autel sur lequel ce parfum a été posé et sont attirés par le sacrifice. Vous savez, les anges ne connaissent pas la foi, tout ça. Ils nous regardent et ils se disent, mais c'est quoi ça? Ils ressemblent. Mais le roi est là, mais il ressemble au roi. Nous devons aller servir le roi parce qu'il y a son image sur la terre qui vient de poser un sacrifice. Des prières où on a sacrifié le sommeil, où on a sacrifié des soirées entre amis parce qu'on était dans le lieu secret en train de déclarer pour notre avenir, pour nos enfants, pour l'avenir de l'Église. Tout ça, Dieu a pris en compte et il nous a dit la semaine dernière, dans les 2 ans, c'est bien ça? Dans les 2 ans, c'est bien ça? J'invente pas. Qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as programmé dans les 2 ans? Qu'est-ce que tu as mis dans ton calendrier?